Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Voilà, je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'être là ce matin avec le peuple de Dieu, le peuple béni. Comme je dis tout le temps, moi j'aime beaucoup les psaumes. Et ce matin, je vais partager avec vous le psaume 42. Ce psaume magnifique que, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer de découvrir tout ce que le psalmiste veut nous dire, tout ce que le psalmiste nous conseille de faire. Psaume 42. Comme une biche qui soupire sur le lit du torrent, ainsi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je paraître devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Alors qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je veux me souvenir. Quand je me répands sur moi-même, je marchais avec la foule et je m'avançais avec elle jusqu'à la maison des dieux. Dans les cris de joie et de reconnaissance d'une multitude, en fait, pourquoi être abattu? Pourquoi gémis sur toi-même? Attends Dieu, je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, je suis abattu. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain. Depuis le mont Miséa, l'abîme appelle l'autre abîme au bruit de tes cascades. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Le jour que le Seigneur dépêche sa fidélité et que la nuit, son chant m'accompagne, c'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher les sombres sous l'oppression de l'ennemi? Alors que mes os se brisent, mes adversaires m'outragent et en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu? Pourquoi gémis sur toi-même? Attends Dieu, je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Pourquoi être abattu? Pourquoi gémis sur toi-même? Attends Dieu, je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez dans ce Dieu tout-puissant?
Amen.
Mes amis, ce matin, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire parce que le psaume s'explique lui-même. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir tout ce que le psalmiste, dans sa tristesse, dans sa détresse, espérait de son Dieu tout-puissant. Bien évidemment, je crois que ce psaume, le psalmiste a écrit ce psaume pendant qu'il était en exil en Babylonie, très probablement. Il était persécuté par ses ennemis. Il entend des cris lui dire à travers les moqueries et les railleries, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? C'est ce cri souvent qu'on entend lorsqu'on traverse des moments difficiles. C'est ce cri qu'on entend souvent quand on a un problème, quand on est malade grave. Souvent, il y a des gens qui nous posent cette question. Ils disent, vous êtes chrétien, mais où est votre Dieu? Ce cri, on l'entend souvent dans notre vie. Où est ton Dieu? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? À mon avis, cela signifie, que fait-il pour toi? Qu'est-ce que ton Dieu fait pour toi? Où est ton Dieu? Que fait-il pour toi? Mes amis, ce cri n'est-il pas souvent pour nous le cri des guerres?
le cri des victimes de guerre, le cri des injustices que nous subissons tous les jours. Ce cri n'est-il pas le cri de la faim dans le monde, où il y a nos frères et sœurs, des enfants qui meurent de faim tous les jours? N'est-il pas ce cri? Le psalmiste, dans ce moment de tristesse, dans ce moment où il se sentait un peu seul, avec toutes les moqueries de ses persécuteurs, il avait la confiance. Il avait la confiance en son Dieu, parce qu'il savait que son Dieu, il est là. Même dans les moments les plus difficiles, les moments noirs de notre vie, de notre existence, notre Dieu, il est là. Oui, où était Dieu? Que faisait-il alors? Où est ton Dieu? Lorsqu'on regarde, lorsqu'on visite les hôpitaux, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Alors, on a souvent envie de poser cette question: où est Dieu? Pour les athées, pour tous les gens qui ne croient pas en Dieu, souvent quand ils ont de la famille qui souffre, qui sont malades, qui traversent des moments difficiles, ils disent: est-ce que Dieu existe? S'il existe, pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde? Mais ce matin, comme le psalmiste, j'ai envie de vous dire que le Dieu Tout-Puissant, il est là. Il est là même dans la nature. Parce qu'à travers la beauté de la nature, on voit effectivement que notre Dieu, il est là. Parce que c'est lui qui a créé la nature. Le Dieu Tout-Puissant, il est là. Mes amis, étant que chrétiens, notre aspiration intérieure devrait être simplement chercher la présence de Dieu. Oui, mes amis, le psalmiste, dans son cri, je ne dirais pas un cri de désespoir, dans son cri de douleur, il avait cette ferme assurance que son Dieu était là. Il n'était pas trop loin. Vous savez, quelquefois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas parce que Dieu nous abandonne. Si ces choses nous arrivent, c'est parce que Dieu le veut. C'est parce qu'à travers ces choses, il veut nous montrer qu'il est là. Le verset 2, mon cœur frémit d'un message de bonheur. Dans le verset 2, comme une biche qui soupire sur le lit du torrent, ainsi je soupire après toi, ô Dieu. Dans le psaume 63 aussi, je vais essayer de faire un rapprochement entre ces deux psaumes. Dans le psaume 63, il est écrit: ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, je soif de toi, je soupire après toi dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. Amen. Ça, c'est David qui parle là. J'ai l'impression que ces deux psaumes, c'est, je dirais que c'est presque, ils ont été écrits, je dirais que dans le même état d'esprit. Je dirais que David, le fils de Corée qui a écrit le psaume 42, ils étaient dans le même état d'esprit. Parce qu'ils étaient à la recherche de quelque chose. Parce qu'ils avaient soif du Dieu Tout-Puissant. Quand il parle d'une biche, c'est juste une image. C'est pas une biche comme vous le savez. C'est une image qu'il utilise pour montrer comment la soif peut quelquefois nous amener à se poser des questions. Mes amis, à travers ces deux extraits des deux psaumes que nous venons de lire, à savoir le psaume 42 et le psaume 63, le verset 1 et 2, Je dirais que ces deux personnes expriment le même besoin pressant. Je dirais, ils expriment le même besoin vital de la présence de Dieu. La présence de Dieu, la soif de Dieu, de sa personne. Ils avaient besoin de Dieu. Ils avaient besoin de la présence de Dieu dans leur vie. Ils avaient soif du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui nous protège. Ils avaient besoin de rencontrer ce Dieu. Ils avaient besoin de le connaître davantage. Mes amis, cette soif avait poussé ces deux personnes à aller à la rencontre du Dieu Tout-Puissant. Parce que cette soif, c'est une nouvelle révélation. C'est une nouvelle révélation de la présence que Dieu doit avoir dans notre vie. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de la soif de sa proximité dans notre vie. Nous avons besoin aussi de vivre en parfaite cohésion avec notre Dieu. Mes amis, vous savez, sans l'eau, un homme ne peut pas tenir le maximum, je dirais, 3 jours. Sans l'eau, un homme ne peut pas tenir. Et c'est pourquoi il est recommandé de boire beaucoup d'eau, surtout en période où il fait beaucoup chaud, où on travaille beaucoup, on dépense, il y a beaucoup de dépenses physiques. Il faut consommer beaucoup d'eau. Mais pourquoi le psalmiste David, il utilise le fils de Coé, il utilise cette image de soif d'eau pour nous montrer effectivement combien il est important pour le chrétien d'aller à la recherche de Dieu? C'est parce que Dieu est la source de l'eau vive que nous avons besoin pour notre âme. Ce matin, vous devez le savoir que sans la présence de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas tenir devant les difficultés. Nous ne pouvons pas tenir. Nous avons besoin de cette source d'eau vive dans notre vie. Nous avons besoin de nous approcher de notre Dieu. Nous avons besoin de lui faire confiance lorsque nous sommes découragés. Mes amis, ce matin, je vais vous dire que le Dieu Tout-Puissant, il vous aime. Il veut vous aider. Le Dieu Tout-Puissant, il nous a rachetés à un grand prix. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas nous laisser mourir de soif. Et ce matin, David et le fils de Coé nous invitent à aller à la recherche de ce Dieu Tout-Puissant. Il nous invite à aller à la recherche de cette source d'eau vive que notre âme a tant besoin. Oui. Si l'eau est vitale dans la vie d'un homme, si l'eau est indispensable dans notre vie, mais aussi pour les chrétiens, il existe un autre besoin qui est plus que vital. Ce besoin qui est très vital, ce besoin qu'on a souvent envie de satisfaire, ce besoin, je ne vois pas le mot exact que je peux utiliser, je dirais que ce besoin extraordinaire que le chrétien doit avoir dans sa vie, c'est la présence de Jésus-Christ. Vous voyez un peu, comme on a besoin de l'eau pour vivre, on a besoin de l'eau pour vivre. Mais cette eau qu'on boit pour vivre, ça ne suffit pas. Si vous avez besoin de la vie, il faut aller à la rencontre de Jésus-Christ. parce que Jésus-Christ, il est cette vie que nous avons besoin. Il est cette source d'eau vive qui nous rend fort. Il est cette source d'eau vive qui nous aide à progresser. Il est cette source d'eau vive qui nous aide à résister face aux tentations, face à la tentation du diable. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Je ne sais pas à quel point que vous avez soif. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans le désert. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire que cette source d'eau vive que vous avez besoin, il est tout près. Il est là. Il est là. Il est là. Parce que Jésus-Christ, il nous a promis qu'il sera toujours avec nous. C'est lui, cette source d'eau vive qu'on a besoin. Mes amis, David avait soif. Il avait soif, pas de ce que Dieu fait. Il avait soif, pas de ce que Dieu pouvait faire. Mais il avait une vraie soif de Dieu. Il avait une soif de lui. Il avait une soif de sa personne. David cherchait le Dieu Tout-Puissant de tout son cœur. Il le cherchait de toute son âme. Oui. Comme David, qui avait ce désir de trouver ce Dieu merveilleux. Ce matin aussi, je crois que nous, les chrétiens du 21e siècle, nous avons besoin de trouver ce Dieu merveilleux. Ce Dieu qui va nous abreuver. Ce Dieu qui va nous transformer. Mes amis, David a cherché son Dieu de toute sa volonté. Pour David, Dieu était même son essence. Pour David, Dieu était son tout. Dieu était son intelligence. Dieu était ses émotions. Ce matin, nous avons besoin de nous mettre ensemble pour aller à la recherche de cette source d'eau vive que le monde a tant besoin. Il y a tant de cris dans le monde. Il y a tant de souffrances dans le monde. Si nous restons ici, si nous restons là, dans ce temple, si nous restons là, dans ce temple, à prier, à écouter la parole de Dieu tous les jours, mais sans aller à l'extérieur pour l'annoncer, alors cette source d'eau vive que les autres qui souffrent, les autres qui sont malades, ils ont vraiment besoin de cette source d'eau vive. Alors ce matin, si Dieu nous a donné cette source d'eau vive, nous devons le partager. Nous devons vraiment la partager, cette source d'eau vive. Cette source d'eau vive nous donne la vie. Cette source d'eau vive nous rend fort. Dans le verset 4, le psalmiste, il dit: mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, alors qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Mes amis, qui peut mesurer l'amertume de la séparation avec le Seigneur? L'amertume de la séparation avec le Seigneur, elle est comme un flot continu de l'âme, une vie de misère sans pareil. Et malgré la souffrance du psalmiste, comme si cela ne suffisait pas, ses adversaires continuaient à le moquer. Ils continuaient à lui poser cette question: où est ton Dieu? Que fait-il pour toi? Il y a quelqu'un qui disait à David, à savoir Simei, dans sa situation, te voilà malheureux comme tu le méritais, car tu es un homme de sang. On a d'autres exemples dans la Bible, comme l'exemple de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la croix, où les principaux sacrificateurs, ils disaient, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. C'est ce que les principaux sacrificateurs disaient à Jésus lorsqu'il était sur la croix. Ils disaient que lui qui disait que voilà, son père l'a envoyé pour délivrer le monde, son père l'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle, son père lui a donné tout le pouvoir, et bien maintenant, il n'a qu'à se délivrer lui-même. C'est cette question souvent le monde nous pose. Ils disent que vous êtes chrétien. Ils disent pourquoi vous avez des problèmes étant que chrétien. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, c'est qu'ils se trompent. Être chrétien, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des problèmes. Vous n'êtes pas devenu chrétien pour ne pas avoir des problèmes. C'est normal qu'un chrétien ait des problèmes dans sa vie. Oui. Le psalmiste évoque aussi des jours meilleurs. Dans le verset 5, il dit « Voici pourtant ce dont je veux me souvenir. Quand je me répandais sur moi-même, je marchais avec la foule et je m'avançais avec elle jusqu'à la maison des dieux dans les cris de joie et de reconnaissance. D'une multitude en fête. » Mes amis, dans les moments de souffrance, il ne faut pas oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Dans les moments où tout s'écroule devant nous, il ne faut pas oublier que Dieu avait fait beaucoup pour nous. Et c'est pour cela que nous devons tenir ferme face aux adversités, face aux défis qui se dressent devant nous. Nous devons nous rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous. Dieu, il nous a rachetés à un grand prix. Pour cela, nous devons tenir ferme, nous devons tenir bon face aux difficultés. On doit se rappeler des bons moments. Les bons moments. Je dirais qu'on doit se rappeler de notre premier amour. Là où Jésus-Christ nous a rachetés. Quand nous sommes venus à lui. Nous étions tout contents, nous étions dans la joie. Voilà, un nouveau chrétien, voilà, très fervent. Tout ça, c'était la fête. Mais au fil des temps, les difficultés arrivent, les mauvais moments arrivent, on oublie les bienfaits de Dieu. Alors ce matin, le psalmiste, malgré toutes ces difficultés, malgré les moqueries, il se souvient des bons moments. Il se souvient des bons moments qu'il avait passés à Dieu. Il se souvient des bons moments qu'il avait passés avec ses frères et sœurs dans la présence de Dieu. Oui, voici pourtant ce dont je veux me souvenir. Quand je me répandais sur moi-même, je marchais avec la foule. Et je m'avançais avec elle jusqu'à la maison des dieux, dans les cris de joie et de reconnaissance, d'une multitude en fait. Amen. Amen. Voilà ce que nous devons nous souvenir. Il faut se rappeler de tous ces bons moments que nous avons passés à Jésus-Christ. Oui. C'était vraiment agréable. Et c'est vraiment agréable de marcher avec Dieu. On doit marcher avec Dieu dans une communion fraternelle, une communion sans ombre. Nous devons nous souvenir de cette période heureuse, de cette période heureuse qui nous aide à surmonter l'insupportable. Il y a un réformateur qui a écrit. C'est un réformateur anglais, il s'appelle John Stott. Il a écrit les souvenirs me reviennent et mon cœur se met à fondre. Quelle émotion en pensant à autrefois, quand je faisais partie de la foule et que j'intriguais le chemin de la maison des dieux au milieu des clameurs joyeuses et des chants de reconnaissance dans l'agitation d'une grande fête. Je crois que ce grand réformateur avait trouvé, il avait le même sentiment que le psalmiste. Il avait trouvé que c'était une force pour lui de se souvenir des bons moments qu'il avait passés dans la présence de Dieu avec ses frères et sœurs. C'est ces moments que nous devons en profiter, de tous ces moments que nous passons ensemble dans la prière, dans la joie, dans l'adoration. Et c'est ce que nous faisons tous les dimanches ici. Nous chantons ensemble. Nous prions ensemble. Mais il faut se rappeler de tous ces bons moments que nous avons passés dans la présence de Jésus-Christ. Le verset 6, l'évolution de ce passé heureux plonge le psalmiste dans une dépression spirituelle et le fait passer alternativement du pessimisme à la foi. Mes amis, souvent, notre âme se décourage et gémit. Mais la foi, notre foi en Jésus-Christ, notre foi en la personne de Jésus-Christ, met la fin à la tension causée par les soucis de la vie, par les accablements de l'esprit. Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mes amis, si le psalmiste exprimait simplement ainsi, c'est parce qu'il savait que sa force était en Jésus-Christ. C'est ce que nous devons avoir, c'est ce que nous devons faire. C'est que il faut savoir que notre force est en Jésus-Christ. La force du chrétien, j'aime bien dire le vrai chrétien. La force du vrai chrétien est en Jésus-Christ. Oui. Le fait qu'on sait que notre force est en Jésus-Christ, cela justifie pleinement notre espérance. Le fait qu'on sait que notre force est en Jésus-Christ, cela nous aide à fonder, cela nous aide à croire, à rester branchés, à rester attachés, accrochés dans les promesses de Jésus-Christ. Mes amis, souvent nous sommes dans la dépression. Dans la dépression, lorsqu'il y a les problèmes, les soucis, les difficultés. Je dis nous, pas vous, hein. Moi aussi. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive des fois. Des fois, nous sommes dans une sorte de dépression spirituelle. Quand je dis dépression, ce n'est pas la dépression physique. Une sorte de dépression spirituelle. Mais vous devez savoir que à chaque fois cette dépression spirituelle arrive, notre foi en Jésus-Christ nous aide à surmonter cette pente. C'est pour cela que le chrétien doit avoir une foi inébranlée, une foi ferme en Jésus-Christ. Notre foi doit nous aider à traverser le Jourdain. Notre foi doit nous aider à traverser l'Hermon. C'est notre foi qui peut nous aider à traverser le désert. C'est notre foi qui peut nous aider à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et ce matin, étant que chrétiens, nous devons rester vigilants face aux attaques des ennemis. Dans le verset 8, il dit: l'abîme appelle l'autre abîme, au bruit de tes cascades, tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Mes amis, en lisant ce verset, j'ai l'impression que le psalmiste était en train de vivre un calvaire. Le psalmiste J'ai l'impression que le psalmiste, il était sur le point de rendre son âme. En entendant les gémissements du Seigneur Jésus au moment où toutes les vagues et les flots du jugement de Dieu déferlent sur lui, sa colère divine s'abat sur lui comme une imposante chute d'eau dans un fracas assourdissant. Notre Seigneur, lorsqu'il était sur la croix, devant cette souffrance, il n'a pas renoncé. Souvent, face aux difficultés, on a tendance à baisser les bras. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix, il n'a pas renoncé devant la souffrance. Il est allé jusqu'au bout, à cause de nos péchés. Il a été crucifié à cause de nos péchés. Il y a aussi George Muller qui a déclaré: les épreuves sont la nourriture de la foi. Les épreuves sont la nourriture de la foi. N'est-ce pas vrai?
Amen.
Est-ce que vous le croyez?
Amen.
C'est pourquoi nous entendons les croyants pleins de confiance témoigner: le jour où l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Et effectivement, c'est la réponse que nous devons donner à l'ennemi. Nous devons montrer à l'ennemi que nous ne sommes pas seuls. Nous devons rester fermes. Le psalmiste a déclaré: mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Désormais, le jour est rempli de la bienveillance inébranlable des dieux. Et la nuit résonne de chants et de prières. Mes amis, il n'y a que la bonté des dieux, il n'y a que la beauté des dieux qui peut nous aider à changer les difficultés il n'y a que Dieu qui peut nous aider à changer les difficultés. C'est vrai, c'est pas évident d'affronter les problèmes de chaque jour, mais au milieu de toutes ces tempêtes, notre Dieu est là, il nous aide à changer cette tristesse en gloire. Il nous aide à traverser ces moments difficiles avec assurance, tout en s'appuyant sur lui. On ne peut pas traverser, on ne peut pas surmonter les défis tout seul. On ne peut pas les surmonter tout seul. Mais ce matin, si nous voulons surmonter les défis, on doit s'accrocher à Jésus-Christ. On doit s'accrocher à la croix. Dans le verset 10 et 11, une fois encore, il dit: alors que mes os se brisent, mes adversaires m'outragent en me disant sans cesse: où est ton Dieu? Pourquoi être abattu? Et là, une fois encore, il y a une sorte de découragement qui assaille le psalmiste. Il y a encore ces choses qui reviennent de temps en temps. Et je dirais que ces découragements qui reviennent, ces moqueries de ses ennemis qui reviennent, je pense que il est normal des fois, après avoir surmonté une épreuve, qu'il y a une autre épreuve qui arrive. Je pense qu'il est normal des fois. Parce que l'adversaire, il ne nous lâche pas. J'ai mon frère, quand on était petit, des fois on faisait quand on part dans les champs pour récolter le riz. Et après avoir récolté le riz, on fait des rouleaux avec la paille de riz. Et puis après, on faisait des combats pour voir qui va jeter l'autre. Et mon frère, quand il est tombé, il dit: premier saut, pas saut. Le premier, quand il est tombé, dans le combat, il est tombé. Il dit, bon, je le dis encore, il dit, premier saut, pas saut. Ce qui veut dire le fait qu'il est tombé le premier, c'est pas un problème. Il va essayer de ne pas tomber la deuxième fois. Ben, c'est ce que le chrétien devrait dire aussi. Quand nous sommes tombés une première fois, il ne faut pas rester par terre, il faut se relever. Avec la ferme assurance que notre Dieu va nous aider. Mes amis, un chrétien ne doit pas perdre courage. Un chrétien doit toujours espérer en Dieu. Parce que notre Dieu, il est notre sauveur. Mes amis, ce matin, je vais arrêter là. J'ai envie de dire, après avoir entendu ce message, après avoir écouté ce message, nous pouvons effectivement reprendre en main notre vie. Mais aussi, j'ai envie de vous poser quelques questions. Avez-vous soif? Et de qui avez-vous soif? De quoi avez-vous soif? Ce sont les questions que je nous pose ce matin, que je me pose ce matin. Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai soif? Et de quoi j'ai soif? Ou de qui j'ai soif? Ça dépend. Si c'est la soif physique, on peut satisfaire cette soif parce qu'il y a des supermarchés partout. Il y a de l'eau. Est-ce qu'on a soif d'une personne? C'est vrai, on a des épouses, on a des maris. Mais cette soif que le psalmiste nous a parlé ce matin, c'est la soif de Jésus-Christ. C'est cette soif qu'on a ce matin. Et cette soif, nous pouvons les combler en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seulement. Mes amis, j'ai envie de vous poser cette dernière question. Avez-vous besoin, comme une biche qui soupire après courant d'eau, ou un homme perdu dans le désert aride, de trouver une source d'eau? Est-ce que vous avez ce besoin ce matin? Et ce matin, j'ai envie de vous dire que le chrétien doit toujours avoir soif de Dieu, ce Dieu vivant. Si nous n'avons pas soif, nous n'allons pas à la recherche de Jésus-Christ. Le chrétien doit être toujours dans cette quête de la recherche de la présence de Jésus-Christ. Mes amis, vous avez compris que ce matin, tous nos besoins peuvent combler en Jésus-Christ. Vous avez compris que tous vos besoins seront comblés si vous êtes restés branchés, connectés, comme diraient les jeunes. Tous nos besoins peuvent combler. Tous nos besoins, indistinctement, peuvent combler si et seulement si nous restons branchés, connectés à Dieu constamment. Constamment. Je ne dis pas seulement à Dieu, mais j'ajoute constamment. Et ce matin, c'est ce que nous devons faire étant que chrétiens, étant qu'enfants de Dieu. Nous devons aller à sa rencontre tous les jours. Je vais prendre un exemple très simple. Est-ce que ce que vous mangez ce matin va vous tenir pour demain? C'est une question simple. Est-ce que ce que vous avez mangé ce matin va vous tenir debout pour demain? C'est impossible. C'est impossible. Ben, c'est la même chose aussi. C'est que ce que vous avez reçu ce matin ne suffit pas. Il faut toujours aller à la recherche de cette parole si puissante que Dieu nous donne. Il faut toujours aller à la recherche de toutes ces bénédictions que Dieu nous donne. Oui, ce matin, Nous ne devons pas rester. Nous ne devons pas rester sur le point de départ. On doit partir. Un athlète doit courir pour gagner sa course. Une fois le signal est donné, l'athlète doit courir. Sinon, il ne va pas remporter le prix. C'est la même chose aussi. Le chrétien ne doit pas rester au point de départ. Il doit partir. On doit partir à la recherche des âmes perdues. On doit partir aussi à la recherche de la connaissance de la parole de Dieu. On doit lui demander de nous aider. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont à notre disposition pour nous aider à mieux comprendre sa parole. Et aussi, j'ai envie de vous dire ce matin, n'attendez pas plus. N'attendez pas plus pour vous rapprocher de notre Dieu. N'attendez pas plus pour aller à la recherche de sa présence. Ce matin, j'ai envie de vous dire, ayez soif du Dieu vivant. Ayez soif du Dieu vivant. Car il veut vous donner de l'eau vive. Venez près de lui. Venez près de lui. Approchez devant lui. Avec tout votre cœur. Venez approcher devant lui avec tout notre cœur. Venez goûter sa présence, car il a tout préparé pour vous. Et n'attendez plus, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.